Chapitre 17. Le baroque. De l'étoffe dont les rêves sont faits. Sophie resta quelques jours sans nouvelles d'Alberto, mais elle jetait plusieurs fois par jour un coup d'œil dans le jardin pour vérifier si elle n'apercevait pas Hermès. Elle avait raconté à sa mère que le chien était rentré de lui-même et qu'elle avait été invitée à prendre quelque chose par son propriétaire, un professeur de physique. Il lui avait parlé du système solaire et de l'avènement d'une nouvelle science au XVIe siècle. Elle en dit davantage à Yoron. Elle lui parla de la visite chez Alberto, de la carte postale dans la cage d'escalier et de la pièce de 10 couronnes qu'elle avait trouvée sur le chemin du retour. Mais elle ne souffla mot ni de son rêve avec Hilde, ni de la croix en or. Le mardi 29 mai, Sophie était dans la cuisine en train d'essuyer la vaisselle pendant que sa mère regardait les informations à la télévision dans le salon. Juste après la bande-annonce, elle entendit de la cuisine qu'un major norvégien des forces armées de l'ONU venait d'être mortellement blessé par une grenade. Sophie jeta immédiatement le torchon en lin sur la table et se précipita dans le salon. Elle eut juste le temps d'apercevoir une image d'un soldat de l'ONU, puis on passa à d'autres informations.
« Oh non !»
s'écria-t-elle. Sa mère se retourna. « Oui, c'est terrible, la guerre. » Sur quoi, Sophie éclata en sanglots. « Mais voyons, Sophie, il ne faut pas te mettre dans un état pareil.
Est-ce qu'ils ont dit son nom ?»«
Oui, mais comment veux-tu que je m'en souvienne ? Je crois qu'il était de Grimstad. »
« Mais Grimstad et Lillesand qui est tout à côté, est-ce que cela ne revient pas au même ?»«
Enfin, ne dis pas n'importe quoi.
Même si on vient de Grimstad, on peut aller à l'école à Lillesand ?»
Elle ne pleurait plus à présent. Ce fut au tour de sa mère de réagir. Elle se leva de sa chaise et éteignit le poste.
« Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Sophie ?»«
Ce n'est rien. »«
Si, je le vois bien. » Tu as un amoureux et je commence à croire qu'il est beaucoup plus âgé que toi. Maintenant, réponds-moi, est-ce que tu connais un homme qui se trouve au Liban ?
Non, c'est pas tout à fait ça.
Alors, est-ce que tu as rencontré le fils de quelqu'un qui se trouve au Liban ?
Non, je te dis, je n'ai même pas rencontré sa fille.
Sa fille ? La fille de qui ?
Ce ne sont pas tes affaires.
Ah, tu crois ça ?
Ce serait plutôt à moi de t'interroger. Pourquoi papa n'est-il jamais à la maison ?
Vous êtes trop lâche pour divorcer, hein ?
Tu as peut-être un amant que ni moi ni papa ne connaissons, dis.
Tu vois, moi aussi j'ai pas mal de questions à te poser si tu veux jouer à ce petit jeu-là.
Je crois qu'il serait temps de mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes.
Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais je suis tellement crevée que je monte me coucher. En plus, j'ai mes règles.
Et les larmes aux yeux, elle quitta la pièce. À peine était-elle sortie de la salle de bain et s'était glissée sous la couette que sa mère entra dans sa chambre. Sophie fit semblant de dormir, mais savait que sa mère n'était pas dupe. Elle savait bien que sa mère savait que Sophie savait qu'elle n'était pas dupe. Mais sa mère fit semblant de la croire endormie. Elle s'assit sur le bord du lit et lui caressa la nuque. Sophie trouvait que cela devenait difficile de vivre deux vies à la fois. Elle commençait à espérer voir la fin de son cours de philosophie. Qui sait s'il ne serait pas terminé pour son anniversaire, ou du moins pour la Saint-Jean, lorsque le père de Hilde reviendrait du Liban.
« J'ai l'intention d'organiser une fête pour mon anniversaire », déclara-t-elle tout à coup.
« C'est une bonne idée. Qui veux-tu inviter ?»«
Beaucoup de monde. Je peux ?»
« Bien sûr, le jardin est assez grand. Peut-être que nous aurons beau temps comme aujourd'hui. »«
J'aimerais bien que ce soit le soir de la Saint-Jean. »«
Eh bien, d'accord. »«
C'est un jour important, »
dit Sophie en ne pensant pas seulement à son anniversaire.
« Mais oui. Je trouve que j'ai beaucoup mûri ces derniers temps. »«
Tu ne trouves pas ça bien ?»«
Je ne sais pas. »
Sophie avait gardé pendant toute la conversation la tête enfouie dans l'oreiller. Sa mère reprit. « Écoute, Sophie, il faut que tu m'expliques pourquoi tu es ces derniers temps si bizarre. Et toi, tu n'étais pas différente quand tu avais 15 ans ?»«
Certainement.
mais tu sais bien de quoi je veux parler. »
Sophie tourna lentement son visage vers sa mère.
« Le chien s'appelle Hermès, » dit-elle.
« Ah bon ? » ?»«
Il appartient à un homme qui s'appelle Alberto. »
« Ah, quand même !»
« Il habite dans les vieux quartiers du bas de la ville. »
« Tu as suivi le chien jusque là-bas ? »
« Ce n'est pas dangereux, tu sais. »
« Mais tu as dit que ce chien était déjà venu plusieurs fois ici. »
« J'ai dit ça ?»
Elle réfléchit un instant. Elle avait envie de dire le plus de choses possibles, mais elle ne pouvait quand même pas tout raconter.
« Tu n'es presque jamais à la maison, » recommença sa mère. « Non, j'ai beaucoup trop à faire, mais Alberto et Hermès sont déjà venus plusieurs fois. »
« Mais pour quelle raison ? Est-ce qu'ils sont aussi entrés dans la maison ?»«
Tu ne pourrais pas poser une question à la fois, dis. »
« Non, ils ne sont pas entrés, mais ils vont souvent se balader en forêt. »
« Tu trouves ça si étrange que ça ?»«
Mais non, voyons. »
« Comme tant d'autres, ils sont passés devant notre portail en allant se promener, et un jour que je rentrais de l'école, j'ai dit bonjour à Hermès. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Alberto. »
« Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire de lapin blanc ?»«
C'est quelque chose qu'Alberto a dit. C'est un vrai philosophe, tu sais. Il m'a parlé de tous les philosophes. »
« Comme ça, par-dessus la barrière du jardin ?»«
Mais non, on a fini par s'asseoir, tu comprends.
Il m'a aussi écrit des lettres, un bon paquet d'ailleurs. Il les mettait parfois à la poste ou me les glissait dans la boîte aux lettres en allant se promener. »
« Ah, c'était donc ça la fameuse lettre d'amour ?»«
À part que ce n'était pas une lettre d'amour.
Il ne t'a parlé que des philosophes ?»«
Ça t'étonne, hein ? Et j'ai plus appris grâce à lui qu'en 8 années d'école. Est-ce que tu sais, par exemple, qui est Giordano Bruno, qui fut brûlé en 1600 ? Ou encore, que sais-tu de la loi de gravitation de Newton ?
J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent.
Je ne crois pas me tromper en affirmant que tu ne sais même pas pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, et pourtant, tu vis sur cette planète.
Il a quel âge environ ?
Aucune idée.
La 50aine, pour sûr.
Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le Liban ?
La situation dérapait. 10 pensées traversèrent l'esprit de Sophie. Elle finit par choisir l'explication la plus plausible.
Alberto a un frère qui est major des forces armées norvégiennes de l'ONU. Il vient de l'île Sand. C'est certainement lui qui a habité autrefois le chalet qu'on a appelé Major Stuart.
Tu ne trouves pas qu'Alberto, c'est un drôle de nom ?
C'est possible.
On dirait que c'est italien.
Je sais.
Tout notre héritage culturel vient soit de Grèce, soit d'Italie.
Il parle norvégien, au moins.
Oh, comme un livre.
Tu sais ce que je pense, Sophie. Je trouve que tu devrais inviter un jour ton fameux Alberto à la maison.
Je n'ai encore jamais rencontré de vrai philosophe, moi.
On verra.
On pourrait peut-être l'inviter à ta grande fête. C'est amusant quand il y a plusieurs générations.
Et j'aurais peut-être le droit d'y assister.
Moi aussi.
Je pourrais au moins faire le service.
Qu'est-ce que tu en dis ?
S'il a envie de venir, pourquoi pas ? C'est en tout cas plus intéressant de discuter avec lui qu'avec les garçons de la classe.
Mais...
Mais quoi ?
Tout le monde va croire qu'Alberto est ton nouveau petit ami.
Tu n'auras qu'à leur dire ce qu'il en est.
Bon, on verra.
D'accord, on verra. Écoute, Sophie. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile entre ton père et moi, mais je ne l'ai jamais trompé.
Laisse-moi dormir maintenant. J'ai terriblement mal au ventre.
Tu veux un cachet ?
Je veux bien.
Quand sa mère revint avec le comprimé et le verre d'eau, Sophie s'était déjà endormie. Le 31 mai était un jeudi. Sophie supporta stoïquement les dernières heures de cours. Depuis le début du cours de philosophie, elle avait progressé dans certaines matières. Avant, elle oscillait d'habitude entre bien et très bien. Mais au cours de ce dernier mois, elle avait obtenu très bien pour un devoir en sciences sociales et pour une dissertation à la maison. Par contre, en mathématiques, ses résultats restaient médiocres. En dernière heure de cours, il y avait de nouveau un devoir sur table. Sophie avait choisi de traiter le thème « L'homme et la technique ». Elle avait écrit tout ce qu'elle savait sur la Renaissance et l'avènement de la science, sur la nouvelle conception de la nature, sur Francis Bacon, qui avait déclaré que le savoir était le pouvoir, et sur la nouvelle méthode scientifique. Elle avait bien précisé que la méthode empirique précédait les inventions techniques. Puis, elle avait écrit ce qui lui passait par la tête à propos des aspects négatifs de la technique. « Toute action de l'homme peut être utilisée à des fins bonnes ou mauvaises », avait-elle conclu. « Le bien et le mal sont comme un fil noir et un fil blanc, si intimement tissés ensemble qu'il est souvent impossible de les séparer. » Quand le professeur rendit les devoirs, il décocha à Sophie un drôle de regard avec un air de sous-entendu. Elle lut « Excellent », accompagné du commentaire « Mais d'où sortez-vous tout cela ?» Sophie prit un feutre et écrivit en majuscule dans son cahier « J'étudie la philosophie ». Au moment de refermer son cahier, quelque chose tomba d'entre les pages. C'était une carte postale du Liban. « Chère Hilde, quand tu liras ces lignes, nous aurons déjà parlé de l'accident tragique qui vient de se produire ici. J'en suis à me demander parfois si on ne pourrait pas éviter la guerre et la violence, si seulement les hommes utilisaient davantage leur intelligence pour penser. Peut-être qu'un petit cours de philosophie serait le meilleur moyen de lutter contre la guerre et la violence. Que dirais-tu d'un petit abrégé de philosophie pour l'ONU, dont on distribuerait un exemplaire dans leur langue natale à tous les nouveaux citoyens du monde? Je vais en toucher un mot au secrétaire général des Nations Unies. Tu m'as dit au téléphone que tu fais désormais plus attention à tes affaires. C'est une bonne chose, car tu es la personne la plus négligente que je connaisse. La seule chose que tu aies perdue depuis la dernière fois, c'est une pièce de 10 couronnes, m'as-tu dit. Je ferai mon possible pour t'aider à la retrouver. Personnellement, je me trouve beaucoup trop loin, mais je connais dans mon cher vieux pays quelqu'un sur qui je peux compter. Si je retrouve ta pièce de 10 couronnes, je t'en ferai cadeau pour ton anniversaire. Amicalement, papa, qui a le sentiment de s'être déjà mis en route pour le long voyage qui le ramènera à la maison. Sophie avait juste eu le temps de finir de lire la carte quand la sonnerie marquant la fin des cours retentit. Sa tête bourdonnait de 1000 questions. Elle retrouva Yoron dans la cour, comme d'habitude. Sur le chemin, elle ouvrit son cartable et montra la carte à son ami. « Quelle date indique le cachet de la poste ?» demanda Yoron. « Certainement le 15 juin. »« Non, attends, il y a marqué 30-5-90. » « C'était hier, c'est-à-dire le lendemain de l'accident au Liban. » « Je doute qu'une carte expédiée du Liban ne mette qu'une journée pour arriver en Norvège, » poursuivit Yoron. « Surtout si on considère l'adresse plutôt inhabituelle. Hilde Møllerknag, au bon soin de Sophie Amundsen, collège de Furulia. Tu crois qu'elle a été postée et que le prof l'a simplement glissée dans ton cahier ?»« Je n'en sais rien. Je n'ose même pas lui poser la question. À propos, je vais organiser une grande fête dans le jardin le soir de la Saint-Jean. » dit Sophie. Il y aura des garçons ? Sophie haussa les épaules. Oui, on n'a pas besoin d'inviter les plus idiots. Mais Jorgen, tu l'inviteras ? Si tu veux. Si ça se trouve, j'inviterai peut-être Alberto Knox. T'es complètement taré ou quoi ? Je sais. C'est sur ces paroles qu'elles se séparèrent devant le supermarché. La première chose que fit Sophie en rentrant à la maison fut de regarder si Hermès n'était pas dans le jardin. Et en effet, il l'attendait, rôdant autour des pommiers. « Hermès !» Le chien s'immobilisa une seconde. Sophie savait exactement ce qui allait se passer pendant cette seconde. Le chien entendrait le cri de Sophie, reconnaîtrait sa voix et déciderait d'aller vérifier si elle se trouvait bien à l'endroit d'où venait la voix. Le voilà qui la reconnaissait et bondissait dans sa direction. Pour finir, ses 4 pattes se mirent à courir à un rythme aussi effréné que des baguettes de tambour. Il pouvait s'en passer des choses en une seconde. Il courut vers elle, secoua frénétiquement la queue et lui sauta dessus.
Hermès, bon chien, tout doux, tout doux. Non, il ne faut pas me lécher. Allez, assis, bon chien.
Sophie ouvrit la porte d'entrée. Shere Khan, embusqué derrière les buissons, pointa son museau. Il se méfiait un peu de cet animal qu'il ne connaissait pas. Mais Sophie lui prépara sa nourriture, versa des graines dans l'écuelle des oiseaux, mit une feuille de salade dans la salle de bain pour la tortue et rédigea un mot pour sa mère. Elle écrivit qu'elle ramenait Hermès chez lui et qu'elle l'appellerait si elle n'était pas rentrée pour 7 heures. Ils se mirent en route. Sophie n'avait pas oublié cette fois de prendre de l'argent. Elle songea un moment à monter dans le bus avec Hermès, mais se dit qu'elle ferait mieux d'en parler avant avec Alberto. Tout en marchant derrière Hermès, elle réfléchit à ce qu'était un animal. Quelle différence y avait-il entre un animal et un homme? Elle se rappelait ce qu'Aristote avait dit à ce sujet. Il expliquait que les hommes et les animaux étaient tous deux des êtres vivants, avec de nombreux traits communs, mais qu'il existait une différence essentielle entre un homme et un animal, à savoir la raison. Comment pouvait-on être sûr de cette différence? D'un autre côté, Démocrite, lui, pensait que les hommes et les animaux étaient assez semblables entre eux, puisqu'ils étaient tous les deux constitués d'atomes et qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre une âme immortelle. Selon lui, l'âme était formée de petits atomes qui partaient dans tous les sens dès qu'une personne mourait. L'âme de l'homme était, d'après lui, indissociablement liée au cerveau. Mais comment une âme pouvait-elle être constituée d'atomes? L'âme n'était pas quelque chose qu'on pouvait toucher et sentir comme le reste du corps. C'était justement quelque chose de spirituel. Ils avaient dépassé la grande place et pénétraient dans les vieux quartiers de la ville. En approchant du trottoir, où elle avait ramassé la pièce de 10 couronnes, Sophie regarda instinctivement par terre. Et là, à l'endroit précis où elle avait trouvé la pièce plusieurs jours auparavant, elle vit une carte postale avec la photo sur le dessus. L'image montrait un jardin avec des palmiers et des orangers. Sophie se pencha pour la ramasser, mais Hermès se mit à gronder. Il semblait ne pas apprécier qu'elle touche la carte. Le texte disait « Chère Hilde, la vie n'est qu'une longue chaîne de hasards. Il n'est pas improbable que la pièce de 10 couronnes que tu as perdue ressurgisse précisément ici. Peut-être qu'une vieille dame qui attendait son bus pour Kristiansand l'a trouvée sur la grande place de Lillesand. De Kristiansand, elle a pris le train pour rendre visite à ses petits-enfants, et des heures plus tard, elle peut avoir perdu cette pièce de 10 couronnes ici. Si on continue, il est fort possible que cette même pièce de 10 couronnes ait été ramassée par une jeune fille qui en avait justement besoin pour prendre le bus et rentrer chez elle. On ne saura jamais, Hilde. Mais si cela s'est réellement passé comme cela, on est en droit de se demander s'il n'y a pas lieu d'y voir la marque d'un dieu providentiel. Je t'embrasse. Ton papa qui en esprit est assis sur la jetée à Lillesand. P.S. Je t'avais bien écrit que j'allais t'aider à retrouver ta pièce de 10 couronnes. Comme adresse, la carte mentionnait « Hilde Mollerknag, au bon soin d'une passante au hasard ». Et le cachet de la poste indiquait « le 15 juin ». Sophie essaya de suivre Hermès qui grimpait rapidement l'escalier. À peine Alberto avait-il ouvert la porte qu'elle lui lança « Allez, dégage, c'est le facteur !» Elle trouvait qu'elle avait de bonnes raisons d'être contrariée. Il la laissa entrer. Hermès alla se coucher comme la dernière fois sous la penderie. « Le major aurait-il laissé par hasard une nouvelle carte de visite, mon enfant ?» Sophie leva les yeux vers lui et remarqua enfin qu'il avait changé de costume. La première chose qui lui sauta aux yeux, c'est qu'il portait une longue perruque bouclée. Il avait revêtu un habit ample avec toutes sortes de plis, rehaussés de dentelles. Autour du cou, il avait noué un foulard en soie et avait enfilé sur son habit une sorte de manteau rouge. Il portait des collants blancs et de fines chaussures vernies avec un ruban. Le costume tout entier évoquait à Sophie des images de la cour du roi Louis XIV.
« Espèce de pitre, va !»
s'exclama-t-elle en lui tendant la carte. « Hum. Et tu as vraiment trouvé une pièce de 10 couronnes à l'endroit où il a déposé la carte ?»«
Oui, juste là. » »«
Il se croit vraiment tout permis, mais c'est peut-être tout aussi bien. »«
Comment ça ?»«
Nous allons pouvoir le démasquer plus facilement. » Cela dit en passant, cet accoutrement pompeux a vraiment quelque chose d'écœurant. Ça pue le parfum bon marché.
Le parfum ?
De loin, ça paraît d'une élégance extrême, mais ce n'est que du trompe-l'œil. C'est comme cet homme qui cherche à faire passer ses sales méthodes de flic pour de la providence divine, dit-il en montrant la carte du doigt avant de la déchirer en 1000 morceaux comme la précédente. Pour ne pas aggraver sa mauvaise humeur, Sophie décida de ne pas mentionner la carte qu'elle avait trouvée à l'école entre les pages de son cahier. « Allons nous asseoir dans le salon, ma chère élève. »«
Quelle heure est-il ? » ? »« 4 heures. »«
Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du XVIIe siècle. »